Donc Charles Taylor s'est aussi beaucoup engagé dans l'action politique. C'est d'ailleurs, je crois, pourquoi il a quitté Oxford, où il avait la chaire Chichilea au collège de All Saints, quitté Oxford pour retourner et s'engager dans l'action politique au Canada en 1981, je crois. Et donc il s'est engagé, il a été très actif sur le terrain très fertile pour un penseur du pluralisme, le terrain très fertile du constitutionnalisme canadien. Et il est à la fois un défenseur du fédéralisme canadien et du droit des Québécois à maintenir une société distincte au sein de la fédération. Donc on a encore une fois cette passion du juste milieu, comme on a pu l'appeler. Plus récemment, et au cours de l'hiver 2007, Charles Taylor a été nommé par le gouvernement du Québec coprésident d'une commission censée régler ce qu'on appelait alors la crise des accommodements. Notamment en 2006 et 2007, la société québécoise, notamment à travers les médias, s'est braquée sur un certain nombre d'affaires qui concernaient des demandes d'accommodement, surtout religieux, de la part de membres de minorités, accommodements demandés dans les institutions publiques. Donc, du port du kirpan sikh dans les écoles publiques, à la demande de médecins féminins dans les hôpitaux, en passant par le port de signes religieux par les agents publics. Donc, je n'en cite que quelques exemples. Donc la commission s'engage dans des travaux, des consultations extensives, et c'est vraiment un exercice exemplaire de philosophie publique, puisque les méthodes suivies par la commission semblent s'être appuyées sur les principes de dialogue et de délibération que Charles Taylor considère être au cœur de l'autogouvernement républicain. Donc après ces consultations extensives et publiques, le rapport conclut que la crise des accommodements a été exagérée. Donc, il y a un grand fossé entre les pratiques et la couverture médiatique dont elles ont été l'objet. Il y a des études qui ont montré que dans beaucoup des cas, les immigrés en particulier ont été injustement blâmés dans un grand nombre d'affaires. Mais au vu des angoisses suscitées chez certains Canadiens, Français, Québécois par ces affaires, les rapporteurs, les rédacteurs du rapport, se sont aussi attaqués à la question plus large de comment répondre à ces angoisses identitaires. Et donc le rapport n'est pas simplement une analyse juridique des limites et de la portée de l'accommodement raisonnable des demandes minoritaires, c'est aussi une réflexion, je pense, très très riche sur l'interculturalisme, l'égalité, l'identité nationale québécoise et la laïcité ouverte. Donc ce rapport fournit peut-être un bon point de départ à nos discussions, certainement d'un point de vue français, puisque de ses apports théoriques principaux, me semble-t-il, consiste dans sa définition très précise, très rigoureuse d'une laïcité ouverte. Et cette laïcité ouverte s'inscrit en partie en réaction avec une laïcité plus stricte, dont la loi française de 2004 qui interdit le port des signes religieux à l'école est un symbole. Donc le rapport Bouchard-Taylor, comme on l'appelle, s'inscrit en faux contre l'interprétation stricte de la laïcité qui est plus commune en France. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour commencer, nous clarifier cette notion de laïcité ouverte?
Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment un essai de mettre dans quelques phrases un peu l'approche que j'essaie de suivre. Mais pour embarquer immédiatement sur la réponse à cette question-là, la laïcité, je crois que nous avons employé ce terme ouverte. C'est le moment où l'intellectuel s'identifie comme acteur politique, et on a employé un terme qui est déjà courant au Québec depuis un certain temps, parce qu'on a eu d'autres discussions sur ces questions-là, mais ce n'est pas un terme qui est immédiatement compréhensible. Il y a un autre terme peut-être que je préférais utiliser, c'est d'ailleurs utilisé par Micheline Milhaud, une des commentatrices très importantes de la laïcité au Québec, laïcité de reconnaissance. Ben, je m'explique un peu parce que je crois qu'il y a une ambiguïté profonde dans la notion de la laïcité telle que nous la vivons. D'ailleurs, il faut commencer en disant, nous sommes en France et nous sommes redevables à vous pour ce terme-là. Nous, pas seulement les Québécois, mais un peu partout, parce que le mot s'emploie dans d'autres langues latines, laïcita, etc. Le mot s'emploie en turc, traduction en turc, laïclique. Et c'est toujours le modèle français qui est à la base de tout ça. C'est pas comme le mot anglais secular, secularist, c'est pas clair qui est à l'origine de ça, quelle culture nationale est à l'origine de ça. Laïcité, c'est clair que c'est la France. Il faut dire aussi que vous jouez un rôle dans l'imaginaire québécois, la mythologie québécoise, et souvent la laïcité à la française, que l'on réclame à certains moments ou que l'on blâme à d'autres moments, c'est un peu une entité mythique. C'est pas la laïcité telle qu'elle est vécue en France, mais une laïcité très, très dure, exclusive. Mais je crois que derrière tout ça, il y a une différence d'approche très importante. Il faut mettre ça au clair. Il faudrait, une fois pour toutes, ou peut-être toujours, discuter et choisir. Il y a deux axes, deux grands axes conceptuels d'après lesquels on peut concevoir la laïcité. D'abord, ça peut être conçu comme un régime qui a comme tâche la gestion de la religion. Trouver comment confiner la religion, lui donner certains espaces et lui en interdire d'autres pour que la religion n'interfère pas ou ne cause pas de difficultés et ne mine pas la démocratie. Deuxième façon de la concevoir n'a rien à faire spécifiquement avec la religion. Le régime laïque a comme but de permettre une certaine diversité en même temps que de créer une certaine unité entre ces éléments divers pour que, justement, ils peuvent œuvrer ensemble à bâtir et à maintenir une vie démocratique. Alors, le mot-clé de la première conception, c'est religion, comment la confiner. Le mot-clé de la deuxième conception, c'est diversité, comment est-ce qu'on l'aménage. Alors, laïcité ouverte, c'est un peu un terme codé, chiffré, pour la deuxième conception. Et c'est celle que nous avons adoptée dans notre rapport. Maintenant, lorsqu'on voit la scène française, on voit que ce n'est pas simplement laïcité première manière. Mais nous avons ce problème énorme dans certains pays occidentaux. C'est que la laïcité que nous vivons maintenant est venue par suite d'une grande lutte avec la religion en général, ou avec une église très puissante, on pense à la France, à ce moment-là, il y avait une lutte presque à mort entre deux grandes conceptions du monde. La laïcité française s'est acquise à haute lutte avec une église catholique qui voulait à certains moments au moins être hégémonique, dominatrice, etc. Alors, c'est normal que pour les Français, le mot laïcité prend la première acception, enfin, conçu en termes de relation avec la religion. Et pour beaucoup de Québécois, maintenant je reviens au Québec, il en a été de même parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire récente du Québec, mais à partir des années 60, il y a eu une forte déchristianisation, une sortie de l'Église, une réaction contre justement une Église très dominatrice que nous avons vécue au Québec pendant quelques siècles, deux siècles. Et beaucoup de ceux qui se rassemblaient pour nos discussions publiques étaient de cette génération de ce que nous appelons la Révolution tranquille. C'est drôle, il y a deux façons de s'auto-identifier qui se recouvrent au Québec. On parle beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas en France, on parle beaucoup de la génération des baby boomers et la génération de la Révolution tranquille. C'est un peu la même chose. Alors ces gens-là avaient vécu cette expérience-là et certains d'entre eux avait tendance donc à s'identifier avec le concept français, c'est-à-dire le concept axé sur le contrôle de la religion, est assez sévère. Et ils parlaient de, c'est simple, la laïcité, c'est une question de religion dans le privé et dans le public, aucune religion. Alors, on leur pose des questions, mais c'est quand les gens portent chez eux avec un foulard, est-ce que c'est le public, ça? Est-ce qu'on devrait interdire ça? Non, non, non. Alors, il y a une confusion très profonde derrière une acceptation, semble-t-il, facile et entière de du modèle français, je mets ça entre guillemets. Il y avait au contraire des attitudes beaucoup plus souples parce qu'ils vivent quand même dans des sociétés libérales, sociétés avec une grande diversité, où on a appris à se respecter dans nos différences, etc. Ça fait partie de la vie courante. Alors, il y a une autre conception, donc, qui se cherche là-dedans, et je dirais que c'est peut-être pas... Ça ne touche pas le seul Québec, ça touche beaucoup de pays occidentaux qui ont tendance à accepter la première conception de la laïcité, justement en sortant d'une histoire de lutte contre la religion, mais qui sont maintenant confrontés à une diversité beaucoup plus grande, parce qu'on a eu un mouvement migration de population à travers l'Occident. Et nous sommes dans des sociétés maintenant, quand j'étais jeune, il y avait catholiques, protestants et juifs, et tout ce qu'il y avait sur le registre religieux. Maintenant, il y a des sikhs, il y a des musulmans de toutes sortes, il y a des hindous, il y a des bouddhistes, il y a énormément de gens qui ont inventé des solutions intermédiaires, etc. Là, c'est ça la diversité véritable de nos sociétés, et on ne peut plus les traiter comme s'il s'agissait de deux grands acteurs, la religion représentée par une église puissante et l'autorité laïque. Alors nous avons été forcés ou amenés à reconcevoir la laïcité sur une autre base, ou pour un peu le dire très crûment et pour démontrer le choc des conceptions, la religion n'est plus la question principale. Pourquoi j'ai un peu la tentation de dire à certains gens qui se tiennent à l'ancienne conception, pourquoi vous vous obsédez pour la religion? Ce n'est pas ça notre grand problème actuellement dans nos sociétés. C'est l'exclusion, la non-reconnaissance de certaines minorités qui risquent justement de miner notre société démocratique et de la rendre inviable et invivable. Alors, branchez-vous sur la question de l'heure.
Oui, je crois que vous montrez très bien que cette transition entre une conception militante de la laïcité qui pense la laïcité comme l'exclusion du religieux a une conception différente que vous définissez à l'instant comme une laïcité de reconnaissance, où prendre la diversité religieuse et culturelle au sérieux, c'est aussi lui donner droit de cité dans la sphère publique. Très bien. En même temps, quand on lit le rapport avec attention, on remarque quand même que vous êtes aussi attaché à cette idée qui, me semble-t-il, est au fondement de la citoyenneté républicaine et libérale, qui consiste à dire vivre ensemble, c'est aussi partager un espace qui est commun, et qui est commun au sens où c'est l'état de tous. Et donc il y a certaines sphères, certaines zones dans nos institutions publiques qui ne devrait pas être trop étroitement attaché à une culture, une religion, parce que si c'était le cas, ça serait difficile de motiver l'allégeance de tous les citoyens à cette sphère publique. Donc il me semble que votre conception est peut-être un peu plus complexe que vous la décrivez maintenant, parce qu'il y a aussi cette idée que, par exemple, le fait d'avoir encore des crucifix dans l'Assemblée nationale du Québec peut être considéré comme incompatible avec une société vraiment multiculturelle, multireligieuse. Donc l'État, à un certain niveau, doit être neutre. Dans quelle mesure vous revendiquez cette conception de la neutralité de l'État?
Ah oui, mais c'est absolument essentiel. Oui, parce qu'il y a deux grands... Moi, je dirais, pour nous, c'est comme ça, nous l'avons défini, il y a deux grands buts, deux grands principes du régime de laïcité. D'abord, la liberté la plus entière, et on a dit liberté de conscience. Il ne faut pas privilégier la religion même dans cette sphère-là. Il y a des questions de conscience qui peuvent se poser pour des gens de toute philosophie, etc. Puis il faut en quelque sorte, assurer la liberté de conscience. Par exemple, si quelqu'un dans une prison exige un menu végétarien, ça pourrait être parce qu'il est hindou, d'une part, ça pourrait être parce que c'est un lecteur de Peter Singer, athée, qui croit qu'on ne devrait pas exploiter les animaux. Il importe peu, une question de conscience, on devrait l'accommoder dans la mesure du possible. Hein? Bon, alors, liberté de conscience, d'une part, et égalité de tous les citoyens, égalité de respect. Alors, c'est ce deuxième principe qui serait lésé du moment où l'État s'affiche comme catholique ou comme athée, ou comme en Turquie, etc., kémaliste, etc., parce que ce ne sera pas plus leur État, ce n'est plus l'État dans lequel ils pourraient se reconnaître aussi bien que leurs voisins catholiques ou kémalistes. Alors, pour cela, on a fait une espèce de partage, c'est très simple dans la théorie, très difficile dans la pratique, qui va un peu choquer les conclusions du rapport Stasi. On a dit, les institutions entièrement neutres, les individus qui vivent, qui travaillent, qui étudient, etc., dans ces institutions, au contraire, ils ont droit à s'afficher. Alors l'idée d'interdire le foulard dans une école publique est complètement pour nous exclue. Mais l'idée d'avoir une école publique qui s'affiche comme catholique et qui s'affiche comme je ne sais pas trop quoi, athée pour l'histoire, etc., c'est exclu. C'est en vertu de ça que nous avons, puis c'est très cocasse parce que c'est la recommandation qui a été traitée immédiatement par le gouvernement, même avant la fin de la conférence de presse dans laquelle nous annoncions le rapport, on a fait cette recommandation de retirer. Il y a l'Assemblée nationale québécoise au-dessus de la tête du président de l'Assemblée, il y a un crucifix qui a été placé là, qui n'est pas vraiment patrimonial, il a été placé là en 1936 par un premier ministre très réactionnaire, là je vous fais grâce de l'histoire du Québec, mais on a dit, ça n'a pas de sens, c'est l'Assemblée nationale de tous les citoyens du Québec, il faudrait enlever ça de là. Il y avait une résolution unanime de l'Assemblée nationale le jour même pour dire ça reste là. Alors, ça va, je peux vous expliquer à un moment donné l'importance de la religion comme patrimoine pour les Québécois, mais enfin pour vous dire que la logique de notre position qui n'a pas été acceptée dans le réel, c'est justement les institutions sont neutres, les individus ne le sont pas et ne doivent pas l'être. À moins de raisons très, très strictes et très, très importantes, il devrait y avoir, et ça va peut-être vous choquer encore plus, selon la logique, les enseignants aussi peuvent s'afficher comme musulmans ou catholiques, etc., au sein d'une école publique. Et je pousserai plus avant la raison de notre décision là-dessus, c'est parce que les gens disent, mais c'est terrible, l'instituteur a quand même un rôle d'autorité, les enfants vont être... Mais non, c'est le contraire. Nous croyons que nos enfants devront apprendre très tôt la nature de la société dans laquelle ils vivent. Et le fait qu'un instituteur, une institutrice porte tel signe, puis un autre porte un autre, puis un autre n'en porte aucun, ça devrait être l'état normal des choses. Comment voulez-vous qu'ils entrent vraiment dans une société de plein pied où ils doivent se reconnaître mutuellement dans une grande diversité de positions si c'est aseptisé dans le climat où ils passent leur enfance? Donc, nous raisonnons à partir de ce partage. Les institutions sont neutres, les individus ne le sont pas et ne doivent pas nécessairement l'être.
On pourrait peut-être aller même plus loin en disant que l'avantage de cette reconceptualisation, c'est qu'elle permet de dire que c'est précisément pour respecter l'égalité et la liberté de conscience des individus que les institutions doivent être neutres. Donc, les institutions doivent être laïques précisément pour que le citoyen n'ait pas à l'être. La laïcité, ce n'est pas un mode de vie, c'est un mode institutionnel de gestion de la différence. Mais ça pose la question que vous venez de soulever aussi, qui est celle des agents publics, parce qu'ils sont précisément à l'interface entre l'institution et le citoyen. Ils sont à la fois des représentants de l'État et ils sont aussi des citoyens ordinaires qui ont des religions, qui veulent pratiquer, le cas échéant. Donc vous avez mentionné l'exemple de l'école, hein, en disant que ni les instituteurs ni les élèves ne devraient être astreints à une obligation de réserve religieuse. Le rapport quand même fait des distinctions oui. entre divers types d'agents publics. Donc il dit qu'il y a certaines fonctions de l'État qui représentent les fonctions régaliennes de l'État, enfin, ou les fonctions disons, symboliquement très importantes, des fonctions de juge, des fonctions de ministre, où on peut légitimement demander une obligation de réserve religieuse, c'est-à-dire d'absence de port de signes religieux. La question qu'on peut se poser par rapport à cette réflexion, peut-être pour avancer un petit peu la discussion, c'est de dire qu'est-ce que l'impartialité dans une société pluraliste ? C'est-à-dire, quand on vit dans une société contemporaine multiculturaliste, on fait l'hypothèse que y a une apparence qui en elle-même est une apparence de neutralité, donc l'absence de port religieux, est un signe aux citoyens que l'institution ou que l'agent est impartial. Selon quel principe peut-on dire qu'une personne qui exhibe un signe d'appartenance, par là même, manquerait à son obligation d'impartialité?
Oui. Non, je ne crois pas qu'il y ait un argument en général là-dessus. Et d'ailleurs, il faut dire que ce rapport, ça représente toujours des compromis avec des conceptions ambiantes. Moi, je ne vois pas de difficulté dans une société où les gens sont vraiment habitués à une diversité profonde et très large. Par exemple, une situation comme en Inde, ça ne poserait aucun problème pour que le Premier ministre, actuellement Sikh, porte, comme vous voyez à la télévision, il porte le turban, etc. Et puis, si ça avait été un musulman, ce serait autre chose. Et il pourrait être le président de la République, et puis, etc. Il n'y a pas de problème là-dedans. Nous avons jugé que dans le Québec actuel, c'est un peu ça qui a été une des causes, une des conditions de la crise des perceptions, la vue de gens avec des religions qui sont peu familières aux Québécois seulement depuis un certain temps, cause encore des remous, des questions, des mises en cause. Alors pour cette raison-là, nous avons cru que la solution qui pourrait être adoptée pour l'instant, c'est d'accepter certaines, disons, là où les fonctions de coercition de l'État entrent en action, pour les policiers, pour les juges, là il faudrait peut-être maintenir une certaine obligation de réserve. Mais je crois que logiquement, il n'y a rien qui justifie ça. C'est-à-dire qu'on devrait en arriver à un point, un jour, où devant un juge qui porte une kippa, par exemple, et que vous n'êtes pas juif, vous êtes prévenu, vous n'êtes pas juif, ça ne devrait pas vous venir à l'esprit que ben, nécessairement il va être contre vous, il va juger autrement que... Non, il y a toujours ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Les juges doivent se récuser pour certaines raisons. S'ils sont liés, s'il y avait eu une bagarre entre je sais pas, deux groupes et puis les questions de les amener devant la cour, là, à ce moment-là, un juge pourrait se récuser. Mais même s'il ne porte pas de signe, il pourrait se récuser s'il est identifié avec un de ces groupes-là. Mais en dehors de cela, on devrait en arriver à un moment où les gens ne songeraient même pas, ils portent une kippa, donc ils vont être contre moi, ils vont être pour moi. Mais ils feront la même confiance qu'on fait au juge, qui n'est peut-être pas grand, qu'ils vont agir de façon impartiale.
Je crois que ça nous renvoie à des différences fondamentales de compréhension du rapport entre le religieux et le politique, entre la culture politique, disons, nord-américaine, pour le dire très vite, et la culture française qui, comme vous le rappeliez, est fortement marquée par le combat anticlérical du 19e siècle notamment, et donc la peur de l'intrusion du religieux dans la sphère publique, même de manière symbolique, parce que ça rappelle de très très mauvais souvenirs. Je crois qu'il y a une différence aussi qui est très importante dans des différences de perception, qui est que dans une pensée française, notamment de la laïcité et de l'histoire de la laïcité, on a l'impression que à terme, le religieux est condamné à s'estomper, à disparaître. C'est-à-dire que le religieux, c'est un peu un reliquat d'un monde prémoderne qui est condamné à disparaître un peu aux marges de la vie sociale ou de la vie privée. C'est clairement pas du tout la conception que vous avez de la sécularisation. Est-ce que vous pourriez peut-être en préciser les attendus ?
Oui, oui. Alors je crois que c'est une vue de l'esprit que la religion va disparaître. La religion va et change toujours de forme. Je crois que ce qui est vrai dans la fameuse thèse de la sécularisation sociologique, qui était justement qu'avec la modernité vient la sécularisation, la religion est en retrait constant. La vérité là-dedans, c'est que les développements que nous appelons modernisation, développement économique, technologique, concentration urbaine, etc., ont eu pour effet de miner et de rendre impossible certaines formes de vie religieuse. Par exemple, les paroisses rurales d'antan, et dans notre pays et dans le vôtre, c'était un peu pareil. Ce n'est plus possible de vivre ça maintenant parce que nous sommes tous des citadins, en un sens, nous sommes tous happés par, il n'y a plus de France profonde. Me semble-t-il, nous sommes tous happés par les mêmes médias de communication, etc., etc. Donc, il y a des mutations, des changements, des recompositions, comme dit Daniel Hervieux-Léger, mais il y en a toujours. Et lorsqu'on regarde l'Occident en général, on voit une variété énorme de la proportion des gens qui s'affichent comme tenant de différentes religions ou d'aucune ou d'une certaine spiritualité sans religion, allant des États-Unis à un extrême jusqu'à peut-être la Suède, je ne sais pas, ou peut-être l'Allemagne de l'Est, si c'était encore un pays, ce serait le pays, disons, le plus athée. Mais il y a cette gamme énorme et on va toujours voir une situation pareille, avec les pays qui vont peut-être changer de situation dans cette gamme. En dehors de ça, il y a un monde à l'extérieur qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout été développé à l'intérieur de religions fortes en Occident. Un monde où l'hindouisme, l'islam, etc. Et là, même des formes qu'on considère comme désuètes chez nous existent encore. Et maintenant, nous avons un mouvement migratoire énorme dans notre monde et une mondialisation qui fait que ces formes religieuses maintenant deviennent partie de notre vie quotidienne avec des immigrants qui arrivent de partout ou avec les rapports de plus en plus serrés avec d'autres parties du monde. Donc, il y a une variété énorme de vies religieuses qui vont continuer d'influer sur, d'affecter, de faire partie de notre monde.
Si on laisse de côté les religions d'influence non européenne, il y a quand même un grand contraste qui est frappant d'un point de vue européen, qui est que la société européenne post-chrétienne se perçoit comme une société de plus en plus sécularisée. Et les Européens sont souvent très choqués de voir la profondeur de la religiosité, notamment chez les Américains des États-Unis, où 90% je cite un peu au hasard, mais une très très grande majorité d'Américains disent croire en Dieu. Il est pratiquement impossible d'avoir une fonction publique si on n'est pas croyant, si on se déclare comme athée. Qui est l'exception ? Est-ce que les États-Unis sont l'exception à votre conception de la sécularisation ou est-ce que c'est plutôt l'Europe qui est l'exception sur la situation dans le monde ?
Oui, des poupées chinoises. À l'intérieur de l'Occident, au sens large, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai essayé de définir l'Occident à partir de la chrétienté latine, mais ça ne marche pas parce qu'il y avait toute l'Amérique latine qui était en dehors de mon analyse, et pour cause, parce que c'est très différent. Mais disons, un peu l'Atlantique du Nord. Okay, non ? Alors, à l'intérieur, ça, c'est une exception par rapport au reste du monde. À l'intérieur de ça, les États-Unis sont exceptionnels par rapport au reste du monde atlantique. Mais là, les Américains sont choqués quand on dit ça, parce que en fait, de nombre, ce n'est pas très différent des populations, de populations européennes et populations américaines, mais c'est un pays parmi d'autres. Alors, ça veut dire qu'il y a j'ai écrit mon livre Secular Age volontairement comme un essai de comprendre la sécularisation à l'intérieur d'une civilisation, parce que je crois que si on essaie de dire qu'est-ce que ça peut nous laisser présager pour la Chine, pour l'Inde, etc., on voit immédiatement que même le terme de sécularisation ne marche pas très bien. C'est très différent dans différents pays, ce qui ne sera pas impossible que, par exemple, les Chinois se conçoivent, beaucoup de Chinois se conçoivent maintenant comme séculiers, mais ça vient d'une autre source complètement, différents rapports entre la religion d'État, le confucianisme et d'autres religions, différents rapports avec la magie populaire, si vous voulez. Et donc, il faut recommencer l'analyse à partir de zéro. Et c'est-à-dire qu'on doit fixer uniquement pour le besoin de notre discussion, la sécularisation comme elle a été vécue à l'Occident. Et nous sommes minoritaires dans le monde. Et jamais on va être absolument sur la même longueur d'onde avec des gens dans d'autres parties du monde qui ont vécu une histoire très, très différente.
S'il est vrai que la sécularisation dans l'Atlantique du Nord ou en Occident a cette histoire très particulière, qu'elle est en effet impensable hors de l'ère de la christianité latine, qu'est-ce que ça veut dire pour sa capacité d'intégrer des formes de religion qui n'ont pas la même histoire de sécularisation, oui. Donc typiquement les religions d'origine non européenne.
Oui, là justement c'est une autre raison pour changer l'axe de la laïcité et pour ne plus la concevoir comme concerné avec la religion en premier lieu, et la concevoir plutôt comme un essai de trouver un régime de coexistence dans le respect de gens très très divers. Et ce n'est pas nécessairement très très difficile dans notre monde. Pourquoi ? Parce que ce que l'on voit, les tensions de l'ordre religieux dans nos sociétés, ce sont des tensions autour de questions d'identité. Il y a des tensions, il y en a qui sont carrément le fruit de croyances religieuses différentes. On pourrait dire, par exemple, aux États-Unis, les batailles autour de l'avortement, c'est clairement une différence qui est, en quelque sorte, qui découle de certaines conceptions théologiques ou non théologiques différentes. Mais le genre de problème de tensions que l'on a avec nos minorités, par exemple musulmanes, ou avec nos minorités d'autres religions, c'est rarement cela. C'est surtout les questions autour d'identité qui se sentent lésées ou pas respectées ou pas incluses dans la neutralité telle qu'elle se conçoit. Et c'est pourquoi je dirais que c'est parfois très difficile de juger si les identités qui se heurtent sont des identités à la base de religion ou des identités à base d'autres choses, d'ethnicité par exemple. On voit en Angleterre, pour prendre l'exemple, les grandes questions de frottement difficile entre les immigrants du sud-est asiatique, les Indiens, Pakistanais, Bangladeshi, etc. Et le reste, c'était une question d'origine ou de race. On parlait de racial issues. Et à un moment donné, il y a eu un espèce de virement d'identité lésée, c'est reconceptualisé chez les musulmans, comme identité musulmane. À ce moment-là, les Pakistanais, les Bangladeshi, les Arabes, etc., étaient tous ensemble. À d'autres moments, ça peut être différent. C'est le heurt de ces identités-là qu'il faut gérer ou qu'il faut trouver moyen de surmonter. En France, beaucoup de gens disent en parlant de 2005, les révoltes dans les banlieues, mais ce n'est pas vraiment une question religieuse. Et ils avaient raison, en un sens, ce que ces jeunes gens n'acceptaient guère, ce contre quoi ils se révoltaient, c'est une non-acceptation d'eux en tant qu'être un peu différent racialement et culturellement. Mais il y avait dans ce mélange de différences culturelles aussi des éléments qui relèvent de l'islam. C'est très difficile de juger, de départager les désaccords religieux ou les conflits religieux des conflits culturels, ethniques, etc. Alors, il faudrait mettre ça sur un autre plan où on se dit, on a des identités différentes, comment vivre ensemble avec ça? trouver un ensemble de règles du jeu fondamentales qui doivent régir notre vie ensemble, l'égalité, c'est ce qu'on a parlé alors très longuement dans notre rapport, l'égalité homme-femme, les droits humains, la démocratie, etc. Et c'est facile de définir dans l'abstrait, c'est souvent très difficile de l'appliquer dans la pratique, et justement, c'est dans l'application de la pratique où on doit souvent discuter longuement et échanger longuement avant de voir exactement comment le faire. Mais c'est ce genre de négociation qu'on devrait tenir et tenir encore et encore et encore. Jamais on va en arriver à une définition définitive qui va régler tous les problèmes. Et c'est entre gens de différentes identités, de différentes façons de vie, de différentes conceptions de la pudeur. C'est souvent ça qui entre en ligne de compte quand quelqu'un demande un médecin femme pour sa femme, etc. C'est des questions de pudeur. Qui sont très différentes, comme elles étaient très différentes dans notre société il y a quelques décennies, et autour de ça trouver des solutions concrètes dans chaque cas etc. Donc du moment où on conçoit le problème, c'est un problème vraiment identitaire. À un certain niveau, il faut, pour qu'une société démocratique fonctionne, qu'il y ait quelque chose comme une identité commune. Et c'est ce qui s'exprime avec le patriotisme. Je suis français, je suis québécois. Ils ont une certaine conception de cette identité commune. Et sans cela, malheureusement ou heureusement, les démocraties ne fonctionnent pas. On peut avoir un empire comme l'empire autricho-hongrois, et puis ça peut tout coexister avec une seule, en quelque sorte, allégeance à l'empereur en haut. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il faut cet engagement mutuel qui seul mobilisé et motivé par un certain patriotisme. Bon, mais en même temps, un tiraillement dans l'autre sens, ce patriotisme doit vraiment être celui de tout le monde, celui que tout le monde peut accepter spontanément. Et là, il faut constamment redéfinir en quoi il consiste. Alors, du moment où on déplace la concentration, le centre de l'intérêt sur cette question de la diversité, de créer un patriotisme qui serait vraiment, qui pourrait être vraiment celui de tout le monde, on peut en quelque sorte faire entrer n'importe quelle différence en principe. Il y en a qui ne marchera pas en pratique, mais n'importe quelle différence en principe pourrait entrer dans ce genre de discussion, de négociation, d'échange.
Pour reprendre un peu tous ces thèmes, une façon de les considérer ensemble, c'est de dire, donc il s'agit de gérer la diversité culturelle, notamment. Vous dites que le religieux, très souvent, il y a une sorte de culturalisation du religieux qui fait que ce qu'on croit être des remises en cause d'un ordre religieux ne sont en fait, ce sont des demandes sociales ou culturelles de notre ordre. Donc il faut penser cette diversité dans un cadre commun. Donc c'est la grande question de comment on arrive à la fois à faire droit à notre identité commune et à nos différences. Ce qui est fascinant dans votre approche, c'est que vous pensez qu'il est tout à fait possible d'être à la fois un patriote républicain et un multiculturaliste. Alors, dans le contexte français, on a plutôt l'impression que l'identité nationale, d'une part, et les identités dites minoritaires de l'autre, il y a un peu un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que plus on reconnaît les identités minoritaires, plus l'identité nationale est minée et peut-être inversement. Et la raison pour cela, me semble-t-il, c'est parce que on a tendance à concevoir, et je pense en partie avec raison, que ce sont des identités de nature différente. C'est-à-dire que l'identité nationale, elle a une fonction instrumentale. Elle est vraiment là pour s'assurer que la démocratie fonctionne bien, qu'on se sent citoyen d'un même espace qui protège à tous les mêmes droits. Et donc cette identité, elle est fondamentale parce que c'est ça, c'est un peu la condition de possibilité de l'exercice de toutes nos libertés. Alors que les identités minoritaires, et là c'est une conceptions peut-être un peu plus contestables, à mon sens, sont vues comme de nature complètement différente. Elles sont souvent perçues en France comme... on parle d'un repli communautaire, donc on parle d'identités qui sont non pas modernes, comme l'identité démocratique, mais qui sont prémodernes, qui appartiennent à un autre âge, et que quelque part faire droit à ces dernières serait mettre en cause l'identité démocratique commune. Dans votre philosophie, qui prend sa source dans des idéaux d'expressivisme, de réconciliation des subjectivités, vous pensez qu'il n'y a pas de différence ontologique fondamentale entre ces deux identités?
Non, au contraire.
Vous pourriez peut-être expliquer pourquoi.
Parce que l'identité commune d'une police, d'une société politique, c'est justement le pôle vers lequel le patriotisme porte tous les gens. C'est très, très différent. C'est l'identité commune d'un acteur collectif. C'est très important. Un acteur collectif, d'une certaine sorte, ça veut dire une société politique. Et les différentes identités à l'intérieur de ça devraient pouvoir fonctionner sans interférence avec cette identité commune. Ça existe à deux niveaux très différents. Et si s'agit d'un acteur commun pour un groupe à l'intérieur de la société, c'est un acteur sur un tout autre plan. Ils peuvent militer pour certaines choses, demander certaines choses, etc. Mais ce n'est pas le grand acteur qui est la nation. Maintenant, tout ça est relativisé par l'Europe, par le développement de la mondialisation, mais en général, les États-nations, c'est encore des acteurs importants. Bon, alors, c'est pas du tout sur le même plan. La question est de savoir si ceux qui ont une certaine identité plus restreinte de groupe peuvent se reconnaître dans cet acteur commun. Et là, on constate qu'il y a des formes, des façons de définir cette identité commune qui peuvent rendre impossible l'acceptation par les acteurs. Alors, vous avez dit, je suis républicain et multiculturaliste, comment je concilie? Je suis multiculturaliste parce que républicain. Je vous donne l'exemple du Canada. Le Canada, en général, le multiculturalisme canadien. Il y a eu ce virement, à peu près aux années 70, au Canada, où, dans le Canada anglais, auparavant, il y avait une conception de citoyen normatif, comme on dit, qui était des îles britanniques, irlandais, ou écossais, ou anglais, etc., ou descendants de ces gens-là. Et ensuite, il y avait d'autres gens, mais ils essayaient de rassembler le plus possible à cette identité-là sans jamais l'atteindre parce qu'ils s'appelaient Kaczynski ou d'autres choses. Le grand revirement du multiculturalisme canadien, c'est dire, écoute, il n'y a pas d'ascendance normative. Le Kaczynski est autant canadien de langue anglaise que le Taylor ou n'importe qui. Hein. Ce virement, c'était un virement, justement, dans la conception même du patriotisme commun. Parce que maintenant, pour les Canadiens anglais, le multiculturalisme est devenu un élément de leur patriotisme. C'est ça qui nous distingue, etc. Et que nous sommes fiers de ça, etc. Un peu de mythologie autour de ça, mais un peu de mythologie ne fait pas nécessairement de tort. Là, il y a ce virement. Ce virement, ce changement, a permis à ce que tout le monde, de toutes les origines, s'identifie vraiment avec l'État canadien. Et justement, pour moi, c'est un exemple d'une loi historique que nous affrontons tous, hein, avec le changement extraordinaire qui se produit dans nos sociétés, y compris dans les éléments qui constituent la migration, etc. De temps en temps, il faut repenser à ça. Est-ce que les marqueurs traditionnels de notre identité nationale, est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que ça peut être? Est-ce que ces marqueurs-là peuvent être rassembleurs maintenant? Et je crois que, si je peux, un brin de critique d'un étranger à l'égard d'une discussion française, il y a certains gens qui parlaient de la laïcité autour de cette question de commission Stasi, etc., comme si c'était un marqueur identitaire de la France, c'est-à-dire une certaine façon de réglementer cela et de gérer cela, faisait partie de l'identité nationale française. Et je crois que ce genre de fixation, ce genre d'identification est très très dangereuse. C'est-à-dire ça peut créer des fossés avec d'autres minorités, non seulement ceux qui immigrent, mais avec une autre génération de jeunes qui peut-être verraient les choses d'une autre façon. On doit, c'est malheureux, mais on doit toujours, dans nos sociétés démocratiques, être prêt à revoir ça, à retrouver un terrain commun, pour pénible que ça peut l'être, et ça l'est souvent, on ne peut pas continuer avec les marqueurs absolument identitaires de l'origine. Et j'ai, aux États-Unis, quand les gens parlent des founders de la République, etc., j'ai toujours une frisson, parce que ce sont les gens qui se cramponnent à des identités, des marqueurs d'identité, disons, ancestraux. Et on ne peut pas continuer à le faire avec un véritable succès, hein, en rassemblant tout le monde dans le monde dans lequel nous existons en ce moment. Les démocraties sont forcées de redéfinir, justement parce que cette identité nationale est à un autre niveau que les autres. Il doit pouvoir être accessible à partir de tous les autres. Et ça exige des redéfinitions.
C'est une défense éloquente du multiculturalisme. Dans le rapport de la Commission, vous dites quand même le Québec doit aussi répudier des parties du multiculturalisme canadien et opter pour sa propre version, oui, qui est appelée l'interculturalisme, qui est un peu différente, qui consiste à dire qu'il y a une culture commune au Québec, définie par le français, dans laquelle tous les immigrés devraient s'intégrer. Et donc vous dites que quand même que le Québec a le droit de se constituer en société distincte avec ses propres compréhensions, ses propres marqueurs historiques de ce qui fait son identité politique. Donc ce qu'on peut rétorquer à votre dernier commentaire sur la France, d'un point de vue français, c'est de dire peut-être que les Français aussi considèrent que la place de l'école dans la formation du citoyen, le rôle de l'école comme sanctuaire de certains idéaux qui sont défendus et promus, fait que les Français, c'est la manière française de réaliser les idéaux universels. Ils sont aussi une société distincte. Et au nom de quoi les Français devraient-ils adopter le multiculturalisme qui, pour beaucoup d'entre eux, vient d'ailleurs?
Oui. Maintenant, ils doivent. Je commence avec la première partie de la question parce que c'était important pour pouvoir répondre à la deuxième partie. Pourquoi on dit interculturel au Québec, hein? Ben, c'est en partie pour des raisons de rhétorique. Il ne faut pas être les mêmes que les Canadiens anglais. Et puis c'est Trudeau qui a inventé cette patente, etc. C'est des raisons. Quand on est auteur d'un rapport au Québec, il faut se plier un peu au vocabulaire local. Mais en fait, les deux gamme de politiques, les deux constellations de politiques concrètes, multicultural canadien, interculturel québécois, se ressemblent énormément. Mais il y a une différence très profonde dans, disons, l'encadrement rhétorique de ces deux politiques-là, et ça, c'est très important de garder devant l'esprit. J'ai dit tout à l'heure pour le multiculturalisme canadien, ça a été le détrôner l'identité historique. Il y a maintenant au Canada en général pas plus d'un tiers de la population qui est de cette ascendance des îles britanniques. Au Québec, 75% de la population et une population de souche française, de souche depuis Samuel de Champlain, etc. L'idée, simplement, d'exploser cette identité historique est inacceptable au Québec. C'est-à-dire, le problème de s'adapter, d'intégrer d'autres, doit se concevoir d'une autre façon que de détrôner complètement l'identité historique. Ce qui a très bien marché dans le Canada anglais, mais ça ne marchera pas au Québec. Et je dirais que ça ne marchera probablement dans aucun pays européen, parce que ce sont tous des pays, et même la France, avec sa diversité beaucoup plus grande, ethnique, etc., même la France n'est pas au stade du Canada anglais, et certainement pas l'Allemagne ou le Danemark, etc. On doit concevoir le problème de la diversité d'une autre façon. Il y a une culture historique basée, fondée dans une certaine origine ethnique qui se développe, continue, s'étend dans le temps et qui se trouve modifié par d'autres voies, d'autres éléments qui entrent et qui échangent avec la population d'origine. Et c'est ça qui est véhiculé, c'est le cadre, disons, rhétorique de la politique de la diversité. C'est ce cadre-là, avec un tronc en quelque sorte majeur qui s'ajoute d'autres éléments, qui est véhiculé par le mot interculturel au Québec. Tandis que l'autre idée, hein, faisons mettons au feu les identités, les identités d'origine, est un peu véhiculé par le mot multiculturel. C'est ça qui fait l'impossibilité d'utiliser ce même mot. Alors je dirais la même chose pour les Français que je dis pour les Québécois. C'est clair qu'il ne s'agit pas du multiculturalisme canadien. Mais en arrivant à des éléments qui sont des marqueurs, vous avez dit l'école comme sanctuaire, comme espace, oui, il y a un élément là-dedans que personne ne vous demanderait de changer, parce que c'est très important, ça fait partie de cette idée de la vocation de l'école, former des citoyens, c'est très important dans le système français. Mais si la façon de concevoir ça, la façon de l'appliquer, arrive à un moment, je ne sais pas si c'est arrivé ou ça peut arriver, mais arrive à un moment à aliéner certaines populations minoritaires, là, vous avez un problème. Et c'est ça, ce sont les dilemmes de la démocratie moderne. Si les marqueurs traditionnels, ancestraux, en quelque sorte, qui viennent des origines, dans leur façon actuelle de se concevoir et de se réaliser, provoque des aliénations, il y a contradiction. La démocratie, la citoyenneté républicaine doit rassembler tout le monde, c'est sa vocation. Il faudrait trouver moyen de le faire. Et là, il faut être ouvert à des négociations sans, disons, sacralisation de certains éléments qui vont s'avérer finalement mineurs.
Je crois que la perception de beaucoup de Français, notamment ceux qui ont pris parti à ces discussions autour de la commission Stasi, serait de dire mais la loi de 2004 n'a pas aggravé le problème, elle l'a résolu. C'est-à-dire que si le problème, c'est un problème d'ordre scolaire, d'intimidation de certaines jeunes filles musulmanes, soit par leur co-religionnaire ou par d'autres personnes, ce problème-là a été résolu simplement en évacuant, en interdisant le port du foulard islamique dans les écoles publiques. Un problème aurait été résolu. Alors, je dis un parce que il n'est pas clair à mes yeux quel était le problème et est-ce que la loi l'a résolu. Mais disons, la question plus fondamentale, c'est si le test de savoir si on doit changer un marqueur historique, c'est le test très très politique de l'aliénation, c'est très difficile parce que qui décide, hein, comment savoir, comment juger de l'effet que certaines pratiques et lois ont sur des minorités et comment juger de la légitimité des demandes minoritaires.
Non, mais c'est pas du tout facile. Il y a certains signes extérieurs, des sondages, des réactions des gens, mais même ça, ce n'est pas tout à fait clair parce que c'est difficile de fixer certains éléments comme les causes d'aliénation plutôt que d'autres. Nous avons trouvé notre expérience en tant que commission, c'est que la discussion que nous avons eue a été très éclairante à cet égard. Quand on en venait au moment où certains Québécois de souche, comme on dit, on a voulu bannir cette expression dans le rapport, mais je peux l'utiliser ici en France. Certains Québécois de souche, avec des immigrants, avec des gens, par exemple, d'origine musulmane, etc., ont discuté ensemble. Et là, on commence à voir des malentendus de part et d'autre, ce qui est la part de simples malentendus, manque d'informations, etc., et ce qui vraiment relève du fond du problème. On peut voir quelles sortes d'adaptations deviennent nécessaires. En dehors d'une telle discussion, c'est très difficile de saisir exactement. C'est pourquoi je dis que l'échange, la discussion, l'ouverture est très important là-dedans. Je conçois très bien que la loi Stasi n'ait pas fait de grands dommages, de grands problèmes à long terme. Le seul élément que moi je critiquerais là-dedans, tout à fait de l'extérieur, c'est que c'est toute la discussion autour. Je crois que la discussion de la Commission et l'acceptation de la loi donnaient un message de fermeture. Hein? On n'est pas là pour discuter, pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème. Par exemple, est-ce que vraiment il y a eu un phénomène très important de coercition sur ces jeunes filles de la part de leur communauté? Ça a été pris comme un fait, sans qu'on examine plus loin. Les quelques éléments de ce travail sociologique que j'ai vu sur la France indiquent le contraire, que ce n'était pas ça qui était la question. Donc, même si la mesure ne fait pas beaucoup de tort, toute la discussion a été une discussion assez franco-française, et puis envoyer un message de « on ne veut pas vous écouter là, on sait de quoi il s'agit, là, on voit très bien quels sont les éléments ici, puis on va agir ». Et c'est ça qui est une source d'aliénation très importante. C'est la discussion plutôt que les résultats. Et c'était justement qui a créé la crise au Québec. Il y avait cette réaction très forte de certains éléments de la population devant les accommodements pour raisons religieuses, surtout de certaines minorités. Alors, il n'y avait aucune mesure encore n'a été prise. Mais les gorges chaudes que les gens faisaient dans les médias, etc., ça, on a parlé avec beaucoup d'immigrants, avec beaucoup de musulmans, ils étaient profondément choqués. Ils ont dit, mais on se considérait comme Québécois, mais maintenant, est-ce qu'on nous accepte? Est-ce que je suis simplement, je redeviens immigrant et pas Québécois? C'est ça qui, vraiment, c'est la façon de mener la discussion qui peut être d'une importance capitale dans une démocratie. Et je crois, dans mon humble opinion de quelqu'un de l'extérieur, le rapport, la commission, le rapport Stasi a été une occasion manquée d'avoir une discussion plus ouverte et plus large avec tous les éléments de la société française, parce que c'est ça qui, à long, va créer un terrain d'entente.
J'aimerais revenir peut-être à cette notion d'accommodement raisonnable, au-delà de la question du foulard musulman à l'école, et plus précisément par rapport à certaines affaires que vous avez traitées dans le rapport, du moins. Alors, l'accommodement raisonnable, c'est une notion juridique qui est issue du droit canadien et qui dit en gros que si la loi, une loi ou une pratique a des effets de discrimination indirecte sur un membre d'une minorité, précisément parce qu'elle est inscrite dans un passé ou une culture qui fait que l'individu qui y est soumis n'a pas les mêmes opportunités d'accès à un bien ou un service que les autres de manière égale, dans ces conditions-là, s'il n'y a pas de contrainte excessive, on peut accorder une dérogation, une exemption à la loi commune. Donc l'exemple typique, c'est on va autoriser des juifs ou des musulmans à prendre un jour de congé supplémentaire pour une grande fête religieuse, étant donné que les chrétiens ont deux droits, le droit de célébrer Noël, Pâques, ainsi que d'ailleurs tous les dimanches, alors que pour les musulmans et pour les chrétiens, la pratique normale de leur foi est plus difficile. Donc il s'est assez établi que le type même de l'accommodement raisonnable, c'est de permettre aux musulmans de célébrer l'Aïd, oui, par exemple. Et donc, une manière de conceptualiser cette pratique, c'est de dire c'est pas une rupture de l'égalité, mais c'est un rétablissement de l'égalité. Oui. C'est-à-dire il y a des moments où on donne des droits différenciés aux individus de sorte qu'ils soient traités de manière égalitaire. On ne penserait pas que, par exemple, ne pas avoir d'accès handicapé à des institutions publiques serait traiter les handicapés de manière égale. Très souvent, il faut créer des mesures spéciales pour que les gens soient traités de manière égale. Donc tout ça est assez connu, parfois pas très bien compris dans le droit français, mais assez, je pense assez généralement admis. Alors, un libéral ou un républicain égalitaire dirait, bon, l'accommodement raisonnable, c'est du droit de l'égalité. En quoi c'est une pratique de la reconnaissance? C'est-à-dire de donner le droit à un musulman de célébrer l'Aïd et à condition qu'il compense par un autre jour, un jour de présence, un autre jour, pour pas qu'il y ait une inégalité, évidemment, avec les autres employés. En quoi ça, c'est porter un jugement de valeur sur sa culture ou sa religion? Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même à maintenir dans des sociétés libérales entre l'état de droit qui parfois donne des droits différents, ouais. mais qui est encore un état de droit, un état qui ne s'intéresse qu'au droit, et un état plus communautarien, qui porterait des jugements de valeur, qui reconnaîtrait positivement la valeur des cultures et des religions qui sont portées par les citoyens.
Ouais. Ben, c'est parce qu'on est peut-être trop sensible. Je crois qu'il y a un changement dans la civilisation assez profond qu'on peut regretter. Moi, je ne regrette pas, mais prenons le cas des handicapés. Pourquoi subitement est-ce qu'on s'est dit, mais écoutez, le fait qu'il y ait seulement un escalier ici avec des marches qui empêche les gens en chaise roulante d'entrer dans le bâtiment, pourquoi est-ce que c'est une discrimination? On a un certain budget et on ne peut pas dépenser infiniment, etc. Il y a eu un revirement de conscience pour dire, mais écoutez, c'est dire aux gens qui sont handicapés, qui sont en chaise roulante, ben vous ne comptez pas, vous ne pourrez jamais participer à ce qui se passe dans ce bâtiment-là, mais c'est dommage, c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à concevoir cela comme un moindre respect à l'égard de ces gens-là? Vous comptez moins que les autres, on ne va pas faire l'effort pour vous inclure. Je ne sais pas. C'est quelque chose que c'est un virement culturel qui s'est fait dans toutes les sociétés occidentales. C'est intéressant, ça. Et subitement, on a commencé à voir le sort des handicapés d'un œil complètement différent. Il s'agit d'une discrimination et il s'agit d'un manque de respect. Maintenant, ce n'est pas un jugement, c'est ce qui est vraiment insultant pour les gens. Ce n'est pas un jugement conscient. Les gens n'ont pas pensé, est-ce qu'il est handicapé, est-ce que ça vaut la même chose que les autres? Ben non. Non. Au contraire, ils n'ont pas même vu qu'il y avait une exclusion. Là. C'était tellement peu important. Et on voit quelque chose de très analogue avec le mouvement des femmes. Les gens ont dit, on dit « il » au lieu de « elle », etc. Et les gens ont dit, ça c'est la grammaire des langues indo-européennes, c'est normal, unmarked, unmarked, etc. Oui, c'est justement ça, la coutume, la grammaire, mais qu'est-ce que la grammaire ne renferme pas, en quelque sorte, une discrimination massive à l'intérieur? Oui.
Je ne sais pas au Québec, pardon, je ne sais pas au Québec, mais en français, on dit toujours « il », on ne dit pas...
Oui, je sais, je n'ai peut-être pas dû...
Quand vous dites « elle »,
correction politique nord-américaine, maintenant.
Quand vous dites « elle », pour employer un neutre, on vous dit « qui ça ?»
Bon, mais enfin, je choisis un autre exemple, vite, donnez-moi. Enfin, vous voyez, il y avait toutes sortes de réclamations dans le mouvement féministe du genre. Ben, vous n'avez même pas remarqué que vous avez fait marquer une différence en excluant, en pas même pensant à la possibilité que. Et c'est justement la même démarche qui a été faite. Alors, on en est venu au moment où on a des attentes d'inclusion. Général, de sorte que les structures qui excluent, si on les laisse exister, continuer du moment où on voit qu'ils excluent, sont considérés comme des jugements implicites, tacites, de moindre valeur de la part de la personne exclue. Et on en est venu là. Alors, il ne s'agit jamais d'imputation de jugement conscient. J'ai considéré votre cas, mais vraiment, vous ne faites pas le poids, ça ne vaut pas la peine, non. Mais des structures où c'est pris pour acquis que ces gens-là ont moins droit, ont moins d'importance, etc. Si vous ne construisez pas la rampe qui permet d'entrer dans le bâtiment, c'est considéré comme un jugement implicite. Et c'est là où toute cette histoire de reconnaissance et d'identité s'implique, se trouve impliquée dans ces questions d'accommodement très concrètes.
Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une distinction entre le handicap et l'identité? C'est-à-dire que le handicap, on le considère comme un désavantage, parce qu'il est subi.
Oui. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et les laïcistes purs et durs, laïcistes à la française, nous ont dit il y a une grande différence. Handicap, vous êtes né sans, vous avez un accident, c'est pas volontaire. Mais si vous êtes musulman, vous pouvez, c'est un choix, hein. Vous pouvez vous convertir à l'athéisme à n'importe quel moment. Alors, à cela, on a répondu, mais c'est vraiment très important de discuter de ça et de l'articuler. Il y a telle chose que des cas de conscience, c'est-à-dire que des affaires qui sont des croyances, des engagements, des principes, qui sont tellement fondatrices de mon identité, que m'exiger que je les nie ou que je les mette de côté, c'est une atteinte à mon intégrité morale. Alors, c'est pour ça, justement, pour enlever la religion du point de mire, qu'on a redéfini cette catégorie qui est déjà existante de liberté de conscience comme la catégorie fondamentale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, s'il y a deux gens qui réclament des menus végétariens, l'un hindou, l'autre athée, peu importe. Pour eux, c'est une question de conscience. Leur demander de manger de la viande, ça, c'est à l'encontre de leur, disons, identité, de leur intégrité morale. Bon, alors, en un sens, c'est un choix. En un sens, ce n'est pas comme le handicap que je pourrais jamais renverser, jamais changer, disons que la médecine capable n'existe pas. Et je pourrais, même peut-être un jour, je vais me convertir à autre chose. Mais pour l'instant, il y a une autre sorte d'impossibilité de me plier à cette exigence-là, c'est-à-dire mon intégrité morale est en jeu. Et je crois que si on fait fi de ça, on laisse de côté tout un pan de l'existence humaine. Et c'est pourquoi toutes les chartes ont défendu la liberté de conscience sous une forme, sous une autre, souvent seulement sous forme de liberté de religion, et nous voulons changer cela pour le rendre plus équilibré, mais ça fait partie du noyau humain, et donc ça bénéficie de ces accommodements aussi bien que des handicaps physiques ou
oui. Alors sur les limites de l'accommodement, peut-être que pour conclure, on pourrait oui. discuter certaines des limites de cette reconnaissance qui est due au respect de l'intégrité des personnes. Donc vous précisez certaines balises, donc le respect des droits fondamentaux, les contraintes excessives pour les administrations parfois. Et un des principes fondamentaux que vous que le rapport identifie, et qui est souvent au cœur des controverses multiculturelles, c'est la question de l'égalité des sexes, l'égalité entre hommes et femmes. Alors pourquoi c'est souvent au cœur des controverses sexuelles, des controverses multiculturelles? C'est précisément parce que dans beaucoup de demandes minoritaires, notamment religieuses, que ce soit juives, musulmanes ou parfois chrétiennes, elles ont vraiment à voir avec le statut de la femme, très souvent. Oui. Alors autant il est facile, je pense, de dire qu'on a une conception du droit qui garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, donc il y a des pratiques, bon, je ne vais pas les nommer parce que de toute façon en France c'est toujours la même liste qu'on ressort, donc tout le monde les connaît, c'est facile de savoir quand un droit d'une femme est violé. Je pense que les questions les plus intéressantes sont aussi les plus difficiles parce que précisément elles n'ont pas à voir avec des droits à l'intégrité physique ou des droits à la liberté de mouvement ou les droits qui sont mis en cause par des violations claires des droits de l'homme, mais par plutôt du fait que beaucoup de groupes religieux ont des conceptions très très différentes de la pudeur et notamment de l'apparence physique des femmes. Alors, encore une fois, laissant de côté le foulard qui est très bien connu ici, mais dans les débats dans lesquels vous vous inscrivez, il y a eu la question de est-ce qu'il est légitime pour une femme de demander d'être simplement vue par un médecin de sexe féminin. Donc le réflexe, certainement en France, c'est de dire non, enfin, on ne va pas choisir son médecin, il y a des possibilités de le faire, mais enfin, ce n'est pas un droit à choisir son médecin. Alors ensuite, si on pousse un petit peu, on dit, bon, mais s'il y a eu un cas de viol, par exemple, est-ce que c'est légitime, est-ce que ce n'est pas illégitime pour la personne concernée de refuser de discuter avec un homme à la suite d'une agression sexuelle. Et on peut penser à énormément de cas comme ça qui, on n'est pas sûr si c'est un droit fondamental qui a été, qui a été bafoué, c'est-à-dire un droit d'égalité de statut, ou si, par définition, les conceptions qu'on se fait de la de la pudeur, de ce qui compte comme respect de la différence des sexes. Le fait, par exemple, que personne, à ma connaissance, n'a remis en cause, au nom de la mixité, le fait que nous ayons encore des toilettes séparées. Oui. On a encore des toilettes pour les garçons et des toilettes pour les filles. Hein, et personne ne dit que c'est une attaque scandaleuse à la mixité. Pourquoi ? Parce qu'on a une conception de la pudeur, oui, qui est culturelle, et qui donne ce genre de règles sociales. Alors quand le rapport dit il y a un principe sur lequel nous ne céderons pas, c'est l'égalité entre l'homme et la femme, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça ?
Oh oui. C'est une
question toujours rhétorique.
Oui, absolument. Et ça, c'est tout le problème du rapport de la culture avec la religion, etc. Oui, parce que je me souviens encore plusieurs reprises, les gens sont venus à nos rencontres pour dire mais c'est absolument... c'est inacceptable, les femmes musulmanes sont venues à la piscine habillées comme ça, du cou jusqu'aux pieds, là, pour plonger dans la piscine. Et bien, c'est absolument affreux. Mais moi, je voulais dire, mais étant commissaire, je n'ai pas dit, il faut voir les photos de mes grands-parents à la plage aux années 1900. Hein. C'était absolument la même chose. Est-ce que vous avez vu des photos de l'époque avec des costumes de bain? C'était une question de la des conditions, de la conception de la pudeur de l'époque. Et là, il y a toute une discussion très, très difficile à démêler. Et je dirais que ce qui a causé cette indignation de la part de la personne en question, c'est l'idée que ça a été dicté par une exigence religieuse. Hein? Si elle avait compris que j'ai un problème de pudeur, je ne veux pas plonger dans la piscine comme font vos petits-enfants pratiquement nus avec des bikinis, peut-être il y aurait eu plus de compassion. Mais c'est quand c'est posé comme une exigence d'une certaine religion. Alors le cas d'espèce qui cause beaucoup de... provoque beaucoup de réactions, c'est quand le mari exige que sa femme soit examinée par une femme, un médecin. Femme, là, ce n'est plus une question de la pudeur personnelle de la personne, mais c'est une exigence d'un mari peut-être jaloux, je ne sais trop quoi. Ouais. Mais ça aussi, évidemment, c'est pas nécessairement, c'est très rarement une exigence de la religion. C'est une certaine culture un peu patriarchique qui exige cela. Alors, à la longue, c'est imbuvable peut-être dans nos sociétés, c'est une bonne partie de la population essayer de faire ça, d'autant plus, la façon dont j'ai géré concrètement dans les hôpitaux québécois, c'est simple. Ils disent, écoutez, au moment, par exemple, l'accouchement, au moment de l'accouchement, on ne peut pas prévoir qui va être de garde. Parce qu'on ne sait pas exactement quel jour, à quelle heure, votre femme va accoucher. On ne peut pas prévoir qui va être de garde. Et on n'a pas les moyens de s'assurer qu'il y ait assez de gens de garde pour qu'on puisse s'assurer, etc. Alors, la réponse, c'est non. Et il faut dire que, dans la grande majorité des cas, si on s'assoit poliment, on écoute la personne, on explique... Il n'y a pas de problème vraiment majeur. C'est très, très rare. Les cas où le mari sort en claquant la porte et veut prendre des mesures de je ne sais c'est trop quoi, ce sont les cas où, et c'est fort compréhensible, les gens un peu surmenés, etc., disent « Oh, cassez-vous pas les pieds avec cette histoire-là, sortez !» À ce moment-là, il y a toutes sortes de problèmes qui surgissent. Mais les institutions qui ont vraiment réussi à gérer tout ce problème-là. Puis il y en a, c'est extraordinaire. C'est ce que nous avons trouvé dans nos recherches. Les institutions, les hôpitaux, certaines écoles québécoises ont développé une culture l'entente, de discussion, de recevoir la personne dans le bureau. Et celles qui avaient vraiment intériorisé cette culture avaient rarement des problèmes, même quand il fallait dire non. Parce qu'il y a cette limite de l'accommodement raisonnable qu'on appelle contrainte excessive. Si ça cause des problèmes trop grands pour l'institution, d'accord, on ne peut pas accepter, on ne peut pas entériner la demande. Et justement, ça, si c'est bien expliqué, dans le plus grand nombre de cas, c'est parfaitement accepté.
Merci beaucoup. Je crois que vous avez démontré de manière très, 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 très éloquente deux qualités essentielles que l'on peut tirer, je crois, de votre culture politique et plus généralement de votre pensée. D'abord, cet accent que vous mettez sur le dialogue, sur la compréhension de l'autre, hein, qui contraste avec une conception plus peut-être normative, notamment de la loi dans la conception française. Et puis d'autre part, cette possibilité qui, je crois, nous fait tous réfléchir, qu'on peut être à la fois républicain et multiculturaliste. Donc je remercie très grandement pour ce plaidoyer pour une fusion des horizons que vous appelez de votre vœu. Merci beaucoup. Merci.